Autour de nous, des gens s'éveillent à d'autres réalités. Qu'ont-ils à nous apprendre? Pourriez-vous être un des leurs? L'Extra Lab part à leur rencontre pour une exploration riche de sens qui pourrait bien élargir votre vision du monde. McDo ou carottes bio? Plats préparés ou purée de navets? L'offre alimentaire ne cesse de se diversifier. Pas facile de s'y retrouver. Quoi acheter? Si nous sommes ce que nous mangeons, que dit de nous notre façon de nous nourrir? Comment peut-elle être un facteur ou au contraire un frein à notre bien-être et à celui de la planète? Longtemps, Gilles Lartigot a cru bien faire.
Je me suis intéressé en fait à la nutrition lorsque je suis parti aux États-Unis. J'avais à peine 18 ans et j'ai commencé à faire de la culture physique en fait là-bas. J'ai eu la grande chance de m'entraîner avec des gens comme Arnold Schwarzenegger et qui m'ont expliqué en fait que pour développer un physique, il fallait bien s'alimenter. Et donc c'est là où j'ai commencé à apprendre, je dirais, la pyramide alimentaire classique, où il faut consommer beaucoup de laitages, beaucoup de viande, des compléments alimentaires, des glucides complexes comme les pâtes, le riz, etc. pour se constituer, je dirais, un physique fort.
Mais un jour, c'est le choc.
J'ai rencontré des personnes d'un groupe qui s'appelle ALF, Animal Liberation Front, qui m'ont invité, si je puis dire, à découvrir ce qu'était l'élevage industriel. Notamment des élevages concentrationnaires, des porcs qui sont élevés pendant 6 mois, qui ne voient jamais le jour, qui même rarement voient des humains parce que tout est automatisé. Des hangars où il y a 25 000 poulets, des hangars de poules pondeuses, où pendant un an, ces poules vont produire des œufs et ensuite vont finir dans un état lamentable donc sur les étals de nos supermarchés, sous forme de barquettes. Et ce que j'ai appris, en fait, c'est qu'en dehors de la maltraitance animale, c'est que cette alimentation-là, cette viande-là, était toxique pour notre santé. Parce que j'ai découvert qu'on leur donnait des antibiotiques pour qu'ils puissent survivre dans ces conditions concentrationnaires. Qu'on les vaccinait aussi, tous les animaux d'élevage reçoivent des vaccins dès leur plus jeune âge. Et il faut savoir que les antibiotiques sont les mêmes que pour nous, humains.
Auteur d'une vingtaine d'ouvrages sur l'alimentation, Marion Kaplan a elle aussi longtemps pâti de ses habitudes alimentaires.
Je peux parler de mon expérience parce que je suis une petite fille née par césarienne et donc élevée au lait de vache. J'ai pas eu la chance d'avoir le lait de ma mère, donc j'ai pas eu le fameux colostrum qui est une substance vitale bourrée de bactériophages, enfin bourrée d'éléments qui auraient pu nourrir non seulement ma flore intestinale, donc je n'ai pas de flore, j'ai une flore très pathogène depuis le départ. Dans ma famille, on disait, oh ben de toute façon, dans notre famille, toutes les femmes sont constipées. Ça, c'était comme un couperet qui tombe, c'était une sentence, j'allais être constipée toute ma vie. Voilà, c'était génétique. Ben, je suis désolée, je ne suis plus constipée aujourd'hui parce que j'ai trouvé la solution. Mais j'étais constipée, si je prenais rien, je n'allais pas à la selle pendant 10 jours. J'étais prête du fécalome. Hein.
Alors ça va pas. Ben pullulation non. Microbienne, putréfaction, ben inflammation.
Alors, ensuite, migraine. 3 jours au lit à vomir.
Ça vous monte au citron.
Bien sûr, mais moi j'étais migraineuse, dépressive. J'ai passé une adolescence dans la dépression. Je voulais mourir. Vraiment. Je commençais à avoir des petites névrites de l'œil. Et je me suis aperçue, en faisant mon test génétique HLA, que j'avais des prédispositions à la sclérose en plaques, quand même. La sérotonine, elle se fabrique à 90% dans l'intestin. La sérotonine, c'est ce qui vous donne la joie de vivre. Donc quand vous avez l'intestin pourri, ce que j'avais, vous n'avez plus de sérotonine, vous ne la recaptez pas et vous êtes dépressif.
Et vous ne dormez pas bien.
Et vous dormez. Mais bien sûr, je suis une insomniaque. Enfin, j'étais une insomniaque, mais grave, quoi. La nuit, les yeux ouverts, quoi.
Professeur de chirurgie et de cancérologie à l'Université de Montpellier, le docteur Henri Joyeux le constate au quotidien. La nutrition joue un rôle dans le développement de certaines maladies auto-immunes.
Je crois que le grand public est en train de prendre conscience qu'il y a une relation directe entre ce qu'il mange, ce qu'il met dans son palais des saveurs et son état de santé. Et il n'y a pas de famille en France où on ne trouve pas des maladies de civilisation, que ce soit du diabète, de l'obésité, des cancers, des rhumatismes, bref, des maladies auto-immunes. Et les gens commencent à savoir, c'est en rapport avec le fait que je m'habitue relativement bien ou mal à mon alimentation. Et donc, la relation entre l'alimentation et la santé est évidente. Un peu comme ce que vous mettez dans votre voiture au niveau de l'essence. Si vous vous trompez d'essence, vous faites 100 mètres. Le problème, là, c'est que vous allez continuer à vivre. Mais vous vivrez moins longtemps. Vous serez plus souvent chez le médecin. Vous aurez des allergies. Vous aurez des pathologies. Vous irez à l'hôpital.
Et aujourd'hui, on a renoncé à faire la cuisine. On a donné la cuisine aux industriels qui nous préparent des plats bourrés de produits chimiques, bourrés d'excipients, bourrés de gluten, de lactose et d'autres éléments qui vous rendent malade.
Les intestins jouent un rôle prépondérant dans le fonctionnement de notre être. Ils seraient même un cerveau à part entière.
Pour moi, l'intestin, c'est le premier cerveau parce que c'est lui qui a été nourri dès le départ, on l'a appelé cerveau entéral, ne l'oublions pas. C'est lui qui fabrique le maximum de neurotransmetteurs. Et quand vous avez mal à l'intestin, vous ne pouvez pas bien fonctionner là-haut non plus. Il y a un tuyau, le système neurovégétatif, qui relie les deux et qui permet d'atténuer quand même les messages. Mais l'intestin est intelligent. Quand vous avez une mauvaise nouvelle, vous vous contractez. Vous contractez du bide. C'est dans le bide que vous ressentez les émotions. C'est pas là. Là, il y a des pensées qui circulent. Mais finalement, si vous regardez bien, quand vous avez une émotion, elle est dans votre ventre, dans vos tripes. D'accord ?
Pour être en bonne santé, il faut faire comprendre la relation entre notre cerveau et notre intestin, que l'un ne va pas sans l'autre.
Si chaque organisme est différent, si nous avons tous des besoins spécifiques, il semble que la surconsommation d'aliments vidés de leur substance originelle puisse nuire à notre santé physique et émotionnelle.
Un des gros problèmes aussi aujourd'hui, c'est que les gens mangent beaucoup trop de céréales et beaucoup trop de blé et donc de gluten. Le gluten pose des problèmes aujourd'hui parce que le blé d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec les blés anciens. Il a été hybridé, il contient 40 fois plus de gluten que les blés d'avant. Et donc, il fait monter la glycémie, vous savez, ce qui fait travailler votre pancréas avec l'insuline. Et vous avez des centaines de millions de diabétiques dans les pays occidentaux parce qu'on mange trop de gluten et trop de mauvais blé.
Le blé d'aujourd'hui, si vous regardez un champ de blé, il vous arrive au genou. Autrefois, quand nous étions enfants, on se cachait dans un champ de blé.
Oui.
Pourquoi ? Parce que le champ de blé, il nous arrivait aux épaules. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les grands ingénieurs agro, ils ont dit, le paysan, il comprend que dalle parce que c'est un paysan. Donc nous, on est des ingénieurs costume trois pièces, on va vous expliquer ce qui se passe. La tige du grain de blé, la tige du blé est trop haute parce que s'il y a un coup de vent, il se plie. Donc on va donner un anti-facteur de croissance pour raccourcir. Mais quand vous raccourcissez tout simplement la tige du blé, eh ben, vous modifiez génétiquement, c'est ce qu'a dit Marion, le grain. Donc vous ajoutez des chromosomes. Et quand vous avez le pain d'aujourd'hui dans le palais des saveurs, vous avez de la gluten, c'est quoi ? De la colle. Vous mastiquez deux fois, trois fois, ça n'a pas bon goût, vous avalez. Ça arrive au niveau de l'intestin, d'abord de l'estomac. L'estomac, il dit, oh, trop compliqué pour moi, dégage. Ça arrive dans l'intestin, lui, s'enflamme. Et là, nos cellules intestinales, je vous rappelle que nous les refaisons tous les 4 jours. Voilà une cellule intestinale. En voilà une autre, elles sont collées l'une à l'autre par ce qu'on appelle des jonctions serrées. Et quand il y a de l'inflammation, parce que le gluten arrive de Monsanto, qui vaut que dalle et qui vaut laisser aux Américains, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tout simplement, la jonction serrée se desserre. Et se desserrant, vous avez des mauvaises molécules qui passent. Le calcium en excès. 4 fois trop de calcium dans un yaya ou dans un fromage de vache. Qu'est-ce qui se passe ? Il passe. Alors, je vais vous faire la relation entre le calcium qui arrive sur votre fémur. Il salue le fémur. « Salut fémur, comment vas-tu ? » Le fémur lui dit « Qu'est-ce que tu viens faire, toi ?»« Je suis calcium, je viens de consolider, mon ami. Tu es de l'os, tu es du calcium. » L'autre lui répond « Je suis un squelette qui bouge. Je n'ai pas besoin de toi. Pit, dégage. Et où je vais ? Là où tu voudras. Où il va ? » Sur le cartilage articulaire, coxarthrose, gonarthrose, dans les seins, microcalcification, inflammation, cancer, prostate, microcalcification, inflammation, cancer, tendons, muscles, fibromyalgie, toutes les maladies auto-immunes. Le calcium en trop passe par des canaux qui vont bousiller nos neurones. Et en bousillant nos neurones, ils créent ce qu'on appelle des protéines inflammatoires qui fait que l'influx nerveux ne fonctionne plus. Et donc, on perd la mémoire, on ne sait plus où est la porte, la fenêtre, le petit voisin, le petit-fils, etc. Alzheimer et Parkinson, soit c'est le Parkinson, soit c'est l'Alzheimer. Donc tout ça, C'est évitable.
Nous mangeons trop sucré et nous avons besoin d'une petite quantité. Il faudrait complètement réinverser la balance. Et le cholestérol protège notre cerveau. Mais ça, c'est votre domaine, je vais vous laisser en parler.
Prenons par exemple les sucres. Le pain blanc, c'est du sucre. Je vous fais prendre 100 g de sucre. Je vous fais prendre 100 g de pain blanc. Je suis le taux du sucre dans votre sang, c'est la même montée. Donc ça veut dire que l'index glycémique de ce pain blanc ou du sucre, c'est le même. Bien. Donc il faut faire attention à une chose, c'est que le sucre, quand nous en prenons en trop, qu'est-ce que nous en faisons? Il y en a qui vous disent, on élimine ce qui est en trop. Pas du tout. Si vous éliminez du sucre dans vos urines, c'est que vous êtes diabétique et que vous avez abîmé vos reins, lesquels sont destinés justement à ne pas filtrer le sucre, parce que le sucre est important pour notre cerveau. Mais nous en consommons trop. Lesquels? Pain blanc, je l'ai dit. Lactose. Quand vous entendez lactose, vous entendez le mot lait. Le lactose, c'est le sucre du lait. Donc dans votre lait, vous ajoutez du sucre. Sur votre yaya, vous faites une petite montagne de sucre. Ça veut dire que le yaourt, moi je dis que je le prescris seulement la veille du départ dans l'au-delà. Une petite portion de chèvre ou de brebis, ça suffit largement. En plus, comme ça a du goût, la satiété vient. Et quand vous avez eu la satiété, vous vous arrêtez. Vous êtes tout content. Et vous ajoutez un petit ballon de rouge. Excellent pour la santé.
Alors on fait quoi? On se rebelle contre le système? Ou l'on commence à agir chacun à son niveau?
Très souvent, ce n'est pas une question de budget. C'est une question de temps. On n'a plus le temps. Et on n'a plus le temps de faire les choses importantes. Le temps, en fait, c'est un bien précieux que nous a volé, en fait, la société moderne. On sent ce dont notre corps a besoin. Mais pour retrouver cet instinct, il faut qu'on le débarrasse de toutes les toxines. Parce qu'aujourd'hui, on mange plus par goût, parce que c'est bon au goût, plutôt que c'est bon pour notre corps. Et ça, c'est aujourd'hui une donnée qui est très importante, qui est que ce qu'on mange, en fait, ne nous correspond pas. Donc on dépense beaucoup d'énergie à digérer la nourriture toxique. Donc si on mange vivant, si on mange des aliments que notre corps reconnaît, assimile directement, on facilite la digestion et on a beaucoup plus d'énergie. Et ça, c'est quand même incroyable.
Quelques conseils pratiques pour réapprendre à bien manger.
Les bonnes habitudes alimentaires, c'est quoi? C'est un peu de tout, varier. Varier, ça ne veut pas dire changer de marque d'industrie, d'accord? Ça veut dire changer vos aliments tous les jours, manger. Il y a plein de variétés de légumes. Le problème, c'est que les gens mangent toujours les mêmes. Oui. Alors qu'aux saisons, la saison est très abondante et selon les saisons, vous avez des légumes différents. Vous pouvez en manger jusqu'à 1 kg par jour de légumes quand vous cuisinez à la vapeur, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Vous pouvez en manger beaucoup. Cru, c'est plus difficile.
Mais en le mastiquant bien.
En mastiquant bien, bien sûr.
Vous avez des ratounes pour ça. Les dents ne sont pas que pour le sourire, pour la photo. Donc, elles sont pour transformer des aliments solides en liquides ou pâteux.
Donc, quelque part, le professeur Joyeux a raison en disant que c'est un régime végétarien, mais les gens n'ont pas compris que le régime végétarien, ça veut dire qu'on mange beaucoup de légumes et un petit peu de protéines animales. Diversifier également des viandes plutôt de petits animaux, parce que les mammifères, on va s'en méfier, mais on peut en manger de temps en temps. Mais il faut impérativement qu'on connaisse la source de leur élevage, comment ils ont été nourris, parce que sinon, il vaut mieux s'abstenir.
On ne veut pas d'OGM.
Voilà.
Les OGM, il faut les laisser aux Américains.
Voilà.
Le problème, c'est qu'on nourrit beaucoup de nos animaux et des OGM.
Et oui.
On ne sait pas très bien ce que ça fait ensuite. Oui. Et au niveau européen, il faut bien le dire, nous avons des experts français qui sont sous la dépendance, en réalité, du commerce international et qui se font, entre guillemets, directement ou indirectement acheter pour dire « Ok ». C'est comme ça que nous avons eu 9 OGM ou 19 OGM qui sont en train de rentrer chez nous. À ce moment-là, nous voulons l'étiquetage. Ça veut dire, je veux savoir si cette viande que je consomme, si ce fromage que je vais consommer, si cette tomate que je vais consommer, elle est OGM ou elle ne l'est pas. Pour les graisses, effectivement, il faut aller vers des graisses végétales. Donc, l'huile d'olive, il n'y a aucun doute. On peut mettre un peu d'huile de colza parce qu'il y a des oméga-3 dedans. Il y a la cameline, il y a l'huile de noix, il y en a bien d'autres. Effectivement, il y a l'huile de coco avec non seulement des oméga-3, mais aussi des triglycérides à chaîne moyenne qui ont un intérêt incontestable pour la myéline. Alors, la myéline, c'est quoi? Imaginez que ça, c'est le nerf. Eh bien, autour du nerf, vous avez une enveloppe, c'est la myéline. Et la myéline, elle permet la conduction nerveuse. Quand la myéline, elle est cassée, le nerf, il fonctionne, d'accord, mais la conduction nerveuse ne se fait pas. bien mastiquer le végétal. Vous inquiétez pas, vous allez faire votre flore digestive en variant vos végétaux, des fruits, des légumes, des légumineuses. Pas bien compliqué. Mais frais, de qualité et bio si possible.
Mâché.
Bien mastiqué, bien sûr.
Le problème, c'est que notre intestin est devenu tellement feignant parce qu'on lui donne des aliments pré-mâchés, trop cuits et qui ne demandent pas d'effort à l'intestin pour être assimilé.
Or, il est fait pour bosser.
Il faut des efforts, il est fait pour bosser. Un organe ne suce que si on ne s'en sert pas. Hein? Donc, plus vous vous servez de vos organes, mieux ils fonctionnent. Et votre intestin, c'est pareil. Et notre intestin, à force de lui donner des aliments bouillis, surcuits, surraffinés et compagnie, eh bien, le moindre grain de sable pour lui devient une catastrophe.
Mais c'est pour ça aussi que vous avez une possibilité d'éliminer les produits toxiques. Et là, si vous voulez, j'ai des collègues qui disent, quand vous les écoutez, vous dites, mais alors on ne peut plus respirer, on ne peut plus rien manger, qu'est-ce qui se passe, on va tous mourir. Il faut savoir une chose, c'est que les produits de l'agriculture productiviste, ils sont lipophiles, ça veut dire qu'ils aiment le gras. Donc, quand je les consomme, ils vont dans mon gras. Où est mon gras? Il est sous la peau. Alors, il y en a qui ont un demi-centimètre, puis d'autres qui en ont 5. Mais sous ma peau, ce gras, il est proche de mes glandes sudoripares, c'est-à-dire de la sueur. Quand je transpire, je ne sens pas très bon quand je transpire, donc je vais sous la douche. Mais je transpire quoi? Justement, les pesticides, les insecticides.
Oui,
donc, évidemment que je ne suis pas pour manger des pommes qui ont subi 17 traitements, mais si on m'en offre une ce soir au dîner où je vais être invité, je vais la manger, la pomme. Bon. Donc, je prends des produits toxiques avec la pomme où il y a des bons produits. Mais le week-end, je vais transpirer et je vais les éliminer.
Changer d'alimentation n'est cependant pas toujours facile. Notre corps et notre tête ne sont pas toujours d'accord.
Moi, j'ai vécu ce changement un petit peu dans la douleur parce que du jour au lendemain, en fait, j'ai consommé différemment. Le fait d'arrêter le lait radicalement, le fait d'arrêter la viande radicalement. Donc, je suis passé vraiment directement sur un régime végétalien pendant une période. Donc, c'était assez compliqué. Comme on dit au Québec, ça brasse dans les intestins. Voilà. C'est bien imagé. Tu vois. Donc, c'est vrai que les légumineuses, c'est pas aussi facile à digérer. Le chou kale ou les betteraves crues aussi, ça peut être assez difficile à digérer. Donc, il faut y aller progressivement. Et donc, ensuite, notre corps s'habitue.
Donc, bien sûr que si vous arrêtez du jour au lendemain, vous allez certainement avoir des réactions d'élimination. Ça, c'est sûr. Donc, il faut comprendre que votre corps, tout d'un coup, il peut fonctionner mieux. Donc, vous allez peut-être avoir des diarrhées, peut-être des boutons qui vont sortir, peut-être, je ne sais pas ce qui se passe quand on change d'alimentation, mais
je pense que
tellement longtemps.
Le changement ne peut pas trop se faire du jour au lendemain. On peut prendre une décision ou en avoir le désir, mais ce n'est pas facile. C'est pour cette raison que c'est pas mal d'être coaché, d'être accompagné. Si par contre, vous êtes quand même en bonne santé, mais vous sentez qu'il y a des petites choses qui commencent à se dérégler parce que vous mangez trop vite, vous mastiquez pas, votre boulot, votre anxiété, la famille, etc. À ce moment-là, vous prenez conscience et vous observez votre assiette. Vous dites, mais qu'est-ce que je mange là? Vous avez quelqu'un qui va vous dire, docteur, est-ce que le fruit, il faut le prendre au début du repas ou à la fin du repas? Bon, mais vous le prenez quand ça vous va bien. Il y en a qui le préfèrent au début du repas, et puis il y en a d'autres qui le préfèrent à la fin. Donc, il ne faut pas forcer les gens là-dessus, parce que l'estomac de Marion n'est pas le mien.
Voilà.
Son intestin n'est pas le mien.
Voilà. Tous ces éléments-là sont à tenir compte. Il n'y a pas une règle pour tout le monde. Pendant la période de détox, on peut même être fatigué.
Oui,
ça fait partie du processus. C'est un processus de guérison.
À chacun, dès lors, de retrouver son instinct alimentaire et de progresser à son rythme, en conscience, vers une meilleure écologie personnelle.
Il y a, si vous voulez, l'écologie d'aujourd'hui, la bonne écologie, c'est pas une écologie politique, ça ne vaut que dalle, c'est une écologie au contact de la nature. Il y a un retour à la nature. Alors pour l'instant, c'est un retour à la nature environnementale et est en train d'arriver le retour à ma nature, c'est-à-dire à la nature de l'homme, à la nature de la femme. À quoi servent mes muscles? À quoi sert mon foie? À quoi servent mes yeux? À quoi sert... Vous voyez, ça c'est très important. Ça c'est un peu second dans l'arrivée, mais il y a une prise de conscience qui est en train de venir. C'est ce que j'ai appelé l'écologie humaine.
Le fait de changer son mode alimentaire, on commence à faire une résilience, c'est-à-dire à avoir de l'autonomie. Aujourd'hui, on a peur. On a peur de quoi? Souvent, on a peur de la maladie. Lorsqu'on comprend que cette alimentation peut nous prévenir de la maladie et peut aussi nous guérir de certaines maladies, on n'a plus peur. Donc, on est un peu plus autonome. Ensuite, il est vrai que dans la plupart des cas, on a des changements au niveau de notre perception, même des ouvertures spirituelles qui s'offrent à nous.
Sans jamais perdre de vue la notion de plaisir.
Il ne faut pas que l'alimentation crée une frustration. J'ai la chance de collaborer avec certains grands sportifs et qui font des régimes, j'aime pas employer ce mot, mais bon, ils ont des protocoles quand même qui sont assez précis. Et je leur dis, il faut que vous gardiez un jour par semaine un jour off. Voilà. Pendant ce jour off, vous allez vous faire plaisir. Parce qu'il faut garder justement ce contact avec l'alimentation plaisir. Même si c'est des aliments qui ne sont pas très bons pour notre corps, il faut quand même tout relativiser. Il ne faut pas que ça crée de frustration. Et il faut aussi apprendre à cuisiner santé et à prendre plaisir de manger justement ce qu'on a cuisiné. Mais ça n'interdit pas les petits écarts. D'ailleurs, j'en fais de plus en plus, donc il faudrait que je me calme un petit peu. Mais c'est vrai qu'en France, on a quand même la grande chance d'avoir un patrimoine culinaire qui est exceptionnel. Donc il faut préserver aussi les vrais restaurants avec des vrais restaurateurs, pas des restaurants qui ont uniquement des fours à micro-ondes, tu vois, et qui font réchauffer leur osso buco en trempant le sac plastique dans une casserole d'eau bouillante, par exemple. Si, ça se fait.